avec Mgr Jacques Perrier.
Bonjour, eh bien cette année pour l'heure mariale, je crois que je dois prendre la parole 5 fois. J'avais l'intention de vous aider à visiter, peut-être ne les avez-vous jamais remarqués, les vitraux de la basilique supérieure, donc la première qui a été édifiée, la chapelle que la dame avait demandée. Or, il y a une série de vitraux qui ont été composés avec beaucoup de soin pour illustrer ce qui est quand même le cœur, on peut appeler ça le cœur ou la pointe, comme on voudra, du message de l'autre, c'est-à-dire la révélation par la Vierge de son nom, « Je suis l'Immaculée Conception ». C'est vraiment ce qu'il y a de plus original à Lourdes. D'une certaine façon, la pénitence, la prière, la pauvreté, bon, on trouve ça dans beaucoup d'autres apparitions. Il peut y avoir même, peut-être en moins grand nombre, mais quand même certainement des lieux où il y a eu aussi des guérisons. Une source, c'est, je ne dis pas que c'est banal, mais enfin, on trouve ça aussi ailleurs. Inversement, cette révélation du nom de la Vierge, avec cette personnification, « Je suis l'Immaculée Conception », c'est vraiment ça le plus original, même si c'est le plus difficile sans doute à transmettre, à faire comprendre. Bon. Que ce soit vraiment le centre du message de Lourdes, je trouve que c'est illustré bah oui, par la correspondance des dates, 1854, le dôme de 1858, les apparitions, par aussi le fait que les papes se sont reconnus d'une certaine façon dans le fait de Lourdes. Bon. C'est la lettre de Bernadette au pape où Bernadette dit « Il me semble que peut-être la Sainte Vierge a été bonne, elle est venue aussi par les apparitions à Massabiel, confirmer ce qu'il avait été défini avant. Bon. » Et puis c'est illustré par le pèlerinage de Jean-Paul II en 2004, donc pour le 150e anniversaire du dogme, pour le 150e anniversaire du dogme, il vient au lieu de l'apparition privée. Donc les papes souscrivent tout à fait au fait que c'est bien ça l'originalité de Lourdes. D'autant plus que, d'une certaine façon, Lourdes va plus loin que le dogme lui-même. Le dogme lui-même dit « Marie conçue sans péché », etc. Mais la Vierge dit plus, elle dit « Je suis l'Immaculée Conception », avec un article défini. C'est elle et elle seule. Voilà. Pour m'expliquer là-dessus, j'ai consacré un chapitre dans mon bouquin « La retraite à Massabielle », où j'essaie d'expliquer cette expression qui paraît surprenante, mais qui est moins surprenante qu'on ne veut bien le croire. Bon, la chapelle, eh bien la crypte est inaugurée en 1866, Bernadette est encore présente, l'église elle-même est inaugurée en fonctionnement à partir de 1871 et elle sera consacrée en 1876 et elle est faite basilique. Et donc, très vite, puisque je crois que c'est en 1878, sont inaugurés des vitraux qui ont été composés par un chanoine de Notre-Dame de Paris qui s'appelait Lucien Lambert. Et Lucien Lambert s'était beaucoup occupé de sourds-muets. Et donc, il était très sensible au langage, un langage non articulé. Bon, donc, le langage des images. Bon, voilà. Et le langage des sourds, et puis, donc, aussi sensible aux images. Puis, en plus, une de ses sœurs, je crois, ou une sœur, Mademoiselle Lambert, a été guérie aussi. Et d'ailleurs, les vitraux qu'il composera a été consacré à la guérison de la sœur. Alors, dans la basilique supérieure, vous avez le registre des fenêtres du bas. Alors, les fenêtres du bas, vous faites tout le tour et ça vous raconte les apparitions et puis les premiers temps du, pèlerinage. Donc c'est très narratif. Bon. Ça se comprend facilement. Puis on les voit facilement, c'est à peu près à votre hauteur. Mais l'important, c'est les fenêtres hautes. Il y a deux séries, alors on pourrait dire convergentes, et elles convergent sur le fond de la chapelle, avec la représentation de Marie, l'Immaculée Conception, telle qu'elle apparaît, elle est apparue à Bernadette. Alors, la rangée de gauche, ce sont les figures, on appelle ça en langage technique, les types, c'est-à-dire les préfigurations, si vous voulez, de l'Immaculée Conception, de la pureté absolue de Marie, indemne de tout péché, de toute trace de péché, pas seulement du péché, mais de toute trace de péché. Donc c'est les figures de l'Ancien Testament, ce qui a préparé. ou au moins a posteriori, ce qu'on, en relisant l'Ancien Testament, on dit, ben, voilà, ça allait dans ce sens-là. Voilà. Et puis, la série de droite, ça part de l'Annonciation, et ça va jusqu'à la définition du dogme. Alors, pour la première émission, aujourd'hui, j'irai seulement un mot du débarrage, donc ça commence par la Genèse. En gros, c'est l'illustration, la première fenêtre, c'est le Genèse 3. Genèse 3, c'est-à-dire à la fois, Adam et Ève sont chassés du paradis, mais déjà, Adam voit, on a ça dans le vitrail, une femme dans le lointain. Bon, parce que de fait, Dieu promet que la descendance de la femme écrasera la tête du serpent. Alors la descendance de la femme, bon, on peut dire c'est le Messie, c'est le Christ lui-même, ou bien on peut dire la descendance de la femme, c'est Marie, la nouvelle Ève. Et donc Adam, voilà. Et ça s'appuie sur ce qu'on a appelé le protévangile, c'est-à-dire la première annonce qu'il y aura un salut. Au-dessus, il y a la colombe, évidemment, le signe de l'Esprit-Saint. Et tout à fait en haut, il y a la croix, très important, puisque le privilège de l'Immaculée Conception, l'oraison de la fête le dit, eh bien, c'est déjà un fruit anticipé de la mort et résurrection du Seigneur. C'est un fruit de la rédemption. Marie aussi, elle est sauvée. Elle est sauvée, disons, antérieurement. Elle n'a pas besoin d'avoir été plongée dans le péché. Elle est sauvée de ne pas y entrer. Voilà. Et donc, et ceci par les mérites de son fils. C'est pour ça qu'au-dessus, il y a la croix. Voilà. Au revoir.